priekšu, brāļa, māsa, papildama, locīdama. Dienu priekšu, brāļa, māsa, papildama, locīdama.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Panique 105.4 FM. Vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Je m'appelle Virginie Nyandima et j'animerai l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des sans-papiers. Au lendemain des élections législatives, Vie Féminine veut parler de la problématique des sans-papiers et des femmes sans-papiers pour rappeler à nos responsables politiques et les engagements qu'ils ont promis en matière de régularisation et d'en tenir compte plus particulièrement de la situation des femmes sans-papiers. Nous allons débattre les thèmes suivants. Qui sont les sans-papiers, leur parcours, leur vie quotidienne, l'image que nous avons d'eux, les revendications, les actions des différentes associations et groupes de solidarité envers les sans-papiers et les positions des partis politiques. Pour mieux comprendre la situation, je suis avec trois invités et je les laisse se présenter. Nicole.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Hélène, je travaille pour Vie Féminine Bruxelles. Et avec mes collègues, nous avons un groupe régional de réflexion sur la problématique des sans-papiers, de l'asile, de l'immigration.
Oui, moi, bonjour, je suis Marie-France Stuart et je fais partie du collectif des femmes en noir contre les expulsions et les centres fermés, aussi de Bruxelles, qui est donc un petit groupe qui est engagé comme féministe et en termes politiques pour défendre en particulier les sans-papiers, donc depuis maintenant 8 ans, donc depuis l'assassinat de Semira Adamou.
Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je suis guinéenne, je suis sans papier, je vis à l'église Saint-Suzanne. Merci.
Merci à vous toutes les invitées. Je vais passer maintenant sur la définition et les appellations qu'on donne souvent aux sans-papiers. Souvent, les sans-papiers sont appelés des clandestins, des illégaux, des irréguliers. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce qui est caché derrière ces mots, Françoise?
Évidemment, il se cache beaucoup de choses. Moi, je connais plutôt les femmes hein, qui se cachent. Et c'est vrai que nous avons beaucoup, on a beaucoup discuté dans notre groupe qu'est-ce que c'était que des personnes sans papier. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de femmes sans papier qui ont des papiers, en fait. Elles ont un petit papier qu'on leur remet à l'entrée du territoire et quelquefois depuis des années. Et depuis des années, et elles se promènent, en fait, avec très peu de droits. Au bout d'un certain temps, elles ont même perdu ce droit et elles se retrouvent complètement clandestines. Mais par ailleurs, ça peut être tout simplement des personnes qui sont arrivées avec des visas et avec des papiers et qui ont dépassé ce stade ou qui se retrouvent dans des situations quelquefois complètement inextricables, qui sont des gens qui travaillent. Qui ont allé leurs enfants à l'école, etc. Et on se rend compte que leur vie quotidienne est plutôt un enfer parce qu'ils n'ont plus ni identité, ils sont sans arrêt en danger et en danger d'être arrêtés ou renvoyés dans leur pays. Et quand je dis dans leur pays, c'est aussi vers le danger souvent.
Merci Françoise. On va en revenir sur les raisons de départ. J'aimerais donner la parole à Hélène pour nous dire ce qu'elle pense sur justement ces appellations, les clandestins, les illégaux, les irréguliers.
Mais en fait, le terme de sans-papiers, sans-papières, c'est un terme un peu générique qui recouvre des réalités très différentes. Donc, il y a des gens qui sont arrivés avec la procédure d'asile et puis qui n'ont pas obtenu de papier. Il y a des gens qui sont arrivés de manière complètement clandestine pour rejoindre des membres de la famille ou autres. Il y a des gens qui ont eu des papiers pour, par exemple, suivre des études et puis qui continuent leurs études, mais tous ces titres de séjour ou cette absence de titre de séjour a comme résultat une très grande insécurité, une très grande précarité, des conditions de vie tout à fait insupportables.
Merci Hélène. Je vais passer la parole à Fatoumata. Fatoumata, pour les gens qui nous écoutent, qui sont réellement les sans-papiers, quelle est leur histoire, leur expérience et qu'est-ce que ça représente pour les femmes sans-papiers?
Oui, je voulais juste dire les sans-papiers. Il y a des sans-papiers qui viennent en procédure d'asile. Il y en a qui viennent pour étudier, étudiants. Et des autres que je ne comprends pas, je ne connais pas, parce que moi, avant, je ne connais pas l'affaire des sans-papiers. C'est ici que j'ai vu ça, j'ai entendu. Mais moi, quand je suis venue juste ici pour l'asile. J'ai demandé asile politique avec mon mari. Mais quand même, quand tu viens ici, tu vas demander asile, on te donne un acquis de réception d'abord, on te donne une carte orange, comme une carte d'identité, parce que pour moi, ça, c'était une carte d'identité. Si tu reçois ça, tu crois que tu n'es pas sans papier, mais tu vas rester avec ça un an, deux ans, trois ans. On te retire ça. Maintenant, on te dit que tu es sans papier, tu es illégaux. Avant, tu étais légaux, maintenant, tu es illégaux. C'est là, moi, je ne comprends pas. Et puis encore, il faut que les belles sages aient sans papier, surtout si tu as fui chez toi le problème de guerre, parce qu'il y a des immigrés qui sont là, ils ont des problèmes de guerre, il y en a qui ont des problèmes de démocratie, il y en a qui ont des problèmes avec leurs parents pour les mariages forcés, il y a tout ça, surtout les femmes. C'est les femmes qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que les femmes, quand il arrête ton mari à faire des politiques, par exemple, s'il dit il est contre le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils manifestent, on t'arrête, on te met à la prison. Là, c'est la femme qui souffre. Des fois, elle arrête les femmes aussi avec leur mari. Les enfants souffrent. Il y a des jeunes femmes qui, tu sais, maintenant, c'est pas comme avant. On te donne mariage forcé, même que si tu ne veux pas, les générations sont peut-être déjà évoluées. Maintenant, elles savent ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui, maintenant, qui prennent leur fille, qui lui donnent au mariage forcé. Il faut que tu ailles là-bas forcé, même si tu ne veux pas. Alors là aussi, les femmes rencontrent beaucoup de problèmes avec ça. Parce que si tu ne veux pas le mari, tu ne vas pas rester. C'est nous en Afrique, si tu dis, moi, je n'aime pas cette mari, s'il te donne un mariage forcé, il faut que tu ailles là-bas. Sinon, tu es comme quelqu'un qui est contre le gouvernement. Maintenant, tu es contre tes parents. Mm-hmm. Là, obligatoire, il faut que tu quittes. Parce que tu n'es pas bienvenue maintenant dans la société.
Oui, justement. Merci Fatoumata. Justement, on va voir maintenant le parcours des sans-papiers. Justement, maintenant, on va écouter les raisons spécifiques. Pourquoi les personnes quittent leur pays d'origine et quelles sont les particularités chez les femmes? Françoise.
Et vous venez d'entendre Fatoumata qui nous a expliqué déjà une bonne partie de quelles étaient les raisons en particulier des femmes qui cherchaient l'asile. Je dirais, j'ajouterais une toute petite chose qui est dans la même ligne, c'est-à-dire que quand les femmes arrivent ici en couple, souvent les papiers sont les papiers de la famille. C'est-à-dire que, bon, les conditions, évidemment, en Belgique, on s'en rend compte, nous on l'a vu dans notre collectif, il y a quelquefois même de la violence à l'intérieur du couple. La femme doit
quitter son mari, parce que bon, elle ne veut pas subir la violence, mais elle quitte sans papier, c'est-à-dire elle quitte là, cette fois-ci, complètement sans son dossier. Et on trouve des femmes qui sont un peu perdues avec des enfants, qu'elles ne savent pas où est leur dossier, elles ne savent rien, même quand elles parlent bien la langue, ça arrive. Hein. Donc on se retrouve dans des situations d'isolement complet. Alors pourquoi quittons aussi. Encore une fois, nous avons pris la position quand nous rencontrons les femmes ici à Bruxelles qu'il y a aussi des femmes qu'on appellerait tout simplement des migrantes, qui sont des femmes qui sont venues pour travailler. Elles savent qu'elles viennent travailler, c'est pour nourrir leurs enfants, souvent en Amérique latine par exemple, hein, mais il y a d'autres nationalités qui le font aussi. Il faut tout de même souligner que cette immigration qu'on appelle clandestine, de travail clandestin, se féminise énormément. Pourquoi ? Parce qu'il y a une offre de travail dans les pays, qui sont les pays européens de façon générale, pour garder les vieilles personnes, pour toutes sortes de tâches domestiques. Or, ces femmes, elles ne cherchent même pas finalement, quelque part, à avoir des papiers, si je puis dire, parce que ce travail au noir est tellement installées. Et elles viennent 3 ans, 4 ans, un petit peu comme les hommes venaient autrefois travailler. Hein. Donc, c'est ça que je voulais souligner aussi, je pense. Et voilà, oui, elles deviennent, il y en a qui deviennent sans papier, évidemment, parce qu'elles sont exploitées et que là, elles n'ont même plus la ressource du travail ou elles se font exploiter ou. Voilà. Il y a aussi, évidemment, une chose qu'on traitera peut-être, qui est celle de la prostitution, c'est-à-dire de jeunes femmes ou de femmes plus âgées qui arrivent leurrées pour un travail et qui se retrouvent dans une prostitution.
Merci, Françoise. Nicole, non, plutôt Hélène, vous avez des choses à ajouter sur comment les femmes, les particularités justement chez les femmes sur les raisons de départ de leur pays d'origine?
Mais en tout cas, première chose à dire, c'est qu'on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. C'est pas du tourisme que les femmes et les hommes qui quittent leur pays font chez nous. Ils partent parce que c'est vital. Alors c'est vital pour différentes raisons. C'est vital parfois pour la sécurité. Et alors c'est vital aussi parce que effectivement, quand on est contre la société dans laquelle on vit, on se fait rejeter et que ça peut devenir dangereux. C'est vital parfois bêtement d'une manière économique. Voilà. Mais c'est vital. Je veux dire, il n'y a pas à juger là-dessus. Quelque part, c'était vital et il n'y avait pas le choix. Les personnes qui partent ne partent pas de gaieté de cœur. Et il ne faut pas non plus croire que chez nous, c'est vraiment rigolo quand on arrive, je veux dire. Arrivé en Belgique, c'est loin d'être le paradis. On se retrouve, quand on demande l'asile dans des centres ouverts, quand on ne le demande pas à chercher des logements et on ne trouve pas, quand on n'a pas de revenus, de logements de bonne qualité, on se retrouve à passer de l'un à l'autre. C'est terrible. C'est terrible et c'est beaucoup plus terrible pour les femmes parce que les femmes, soit elles viennent seules et alors elles sont vraiment très facilement exploitable, soit dans des conditions de travail très pénibles, mais parfois aussi, effectivement, il y a de ces faux amis qui les mettent plus ou moins officiellement dans des réseaux de prostitution, mais pas nécessairement des réseaux organisés avec pignon sur rue. C'est parfois des choses qui ressemblent à des viols collectifs, il faut pouvoir le dire. Enfin, et elles ne sont pas rémunérées pour ça. Elles ont juste de quoi manger et pouvoir se loger. Donc c'est des choses terribles. Et puis aussi, même si elles sont en famille, elles sont alors avec les enfants, avec la charge des enfants. Et ça, les femmes, ça ne changera pas. Pas de sitôt, elles vont alors se sentir responsables de ces enfants et vont d'abord veiller à assurer le minimum pour les enfants que pour elles. Et puis en plus, comme il n'y a pas de système de garde pour les jeunes enfants sans papier, ils ne peuvent pas aller dans les crèches et aller à alt accueil. En plus, elles sont obligées de les garder avec elles, donc c'est très difficile de travailler. Et si on y arrive, ça veut dire que les enfants, eux, ne sont pas en sécurité. Parce que soit ils sont seuls à la maison, soit ils sont chez des copains, des copines, des connaissances.
Mmh. Fatoumata nous a parlé de comment les personnes, les femmes deviennent sans papier une fois qu'elles arrivent dans le pays d'accueil. Est-ce que vous avez aussi d'autres choses à ajouter de comment on devient un sans papier?
Mais j'ai l'impression que Fatoumata l'a bien expliqué, on devient un sans-papier un petit peu sans s'en rendre compte, parce que on commence la procédure, une procédure d'asile, et puis on a l'impression qu'on est toujours en cours, et puis on n'est plus vraiment en cours. Et bah, y a des tas de gens qui pensent, par exemple, quand ils sont introduits une demande de régularisation, que c'est la suite logique et qu'ils sont toujours dans le bon. Or, c'est pas parce qu'on fait une procédure de régularisation qu'on obtient des papiers. Ça reste malheureusement terriblement aléatoire. J'imagine qu'on y reviendra par la suite. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, arrivent par des filières et savent très bien qu'elles n'ont aucune chance d'obtenir l'asile, puisque c'est la seule façon de rentrer en Belgique avec les mariages. Et donc, qui chipotent en espérant pouvoir se marier ou obtenir des papiers d'une façon ou d'une autre.
Merci Hélène. Avant de prendre la pause musicale, nous allons écouter Job Tere Naïn de Semera and Cylinder. Job Tere. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM. Notre émission, elles en parlent encore de vie féminine Bruxelles. Nous parlons toujours sur la question des sans-papiers et des sans-papières. Maintenant, nous allons aborder de comment les sans-papiers vivent leur quotidien. Fatima, est-ce que vous avez des choses à nous dire?
Oui, ici on peut dire que les femmes et les sans-papiers vivent quelque chose qui est dur, qui n'est pas facile, surtout, je vais préférer presser, surtout les femmes. Si tu es un homme, tu n'as rien à permettre. Vous avez une femme, si tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, tu ne sais pas, surtout nous, les femmes africaines noires, quand tu viens ici, tu as beaucoup de problèmes. Problèmes par rapport, il y a des femmes africaines noires qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas ni lire ni écrire, c'est des problèmes. La deuxième fois, la deuxième chose aussi, quand tu viens ici, tu ne sais pas comment ça se passe, comment ça s'explique. Les hommes, ils vont te montrer, ils vont te mettre dans l'erreur aussi. Parce que il y a des hommes qui disent, tu viens avec moi, je vais t'aider, je vais te faire comprendre comment ça se passe. Alors qu'ils profitent. Il n'y a pas beaucoup de femmes africaines, surtout c'est nous qui viennent faire la prostitution. Mais tu vas voir beaucoup de femmes qui viennent chez nous vers le Congo, Guinée, comme ça, Sierra Leone, qui ont des enfants. Pourquoi ils ont des enfants? Parce que les hommes les trompent. Tu dis quand tu as un enfant ici, tu auras des papiers, quelque chose comme ça. Alors que tu es obligé de faire cet enfant, quand tu fais l'enfant, il t'abandonne. Maintenant, tu as des problèmes. Le problème de ton enfant est tes problèmes. Tu ne vas pas abandonner ton enfant, tu n'as pas de parents ici qui vont t'aider pour s'en occuper de cet enfant. Tu as beaucoup de problèmes.
Est-ce que les personnes, les sans-papiers, mais aussi les femmes, est-ce qu'ils ont les mêmes droits que d'autres personnes?
Non, ils n'ont pas les mêmes droits que d'autres personnes, parce que si tu es ici sans-papiers, avec enfant, si tu n'as pas de papiers, tu ne dois pas aller suivre le cours français. Quand tu vas, on te demande la carte d'identité, tu dis il n'y a pas, tu les montres l'annexe 26 qu'on te donne à l'office d'étranger, il dit non, ça ne compte pas, il faut que tu aies une carte orange. Ça, tu as le droit de rester dans le pays. Si tu montres les autres, ils disent non, tu n'as pas droit d'aller faire la cour française. Ton enfant n'a pas droit à la crèche. Si c'est un enfant qui l'âge d'aller à l'école, là, c'est obligatoire. L'enfant va aller à l'école. Mais là aussi, c'est un autre problème parce qu'on te demande de payer caisse de classe et l'autre, quelque chose comme ça. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas droit de travailler. Tu es avec ton enfant.
Merci Fatoumata. Françoise, quels sont, en écoutant ce que Fatoumata vient de dire, qu'est-ce que vous avez envie de, d'ajouter? Est-ce que les femmes, les sans-papiers, est-ce que elles ont les mêmes droits que d'autres personnes? Quels sont les problèmes qu'elles rencontrent au niveau, que ce soit administratif, au niveau de santé médicale, au niveau de l'emploi, au niveau de logement, enfin, au niveau de la vie quotidienne?
Mais j'ai envie de donner juste un seul exemple, parce que, bon, il est évident que sans papier, tous les droits, je dirais, à la fois sociaux, de protection qu'un État peut offrir, sont pas là, sauf quelques urgences, comme par exemple tout enfant a droit d'aller à l'école, avec ces limitations qu'on vient d'entendre, où les personnes, on est obligé de soigner des personnes malades. Mais bon, toutes ces choses sont très, très limitées. Mais, dans notre collectif, nous aidons depuis déjà maintenant un an et demi, soutien moralement, financièrement, avec ce que nous récoltons, une jeune femme. Une jeune femme qui est arrivée avec ce qu'elle pensait être son mari marocain, qui habitait à Bruxelles, etc. Elle s'est rendue compte que son mari était déjà marié. Il était marocain, mais il était déjà... Donc, son mariage n'était pas valable. Cet homme, pour des tas de raisons, est devenu aussi très violent envers elle. Donc, elle a dû s'enfuir. Et quand notre collectif l'a rencontrée, elle était cachée dans une chambre d'une mosquée. Donc, c'était une femme qui était à la fois fragilisée complètement, qui ne savait pas où elle pouvait avoir de l'aide, et même un collectif comme le nôtre qui a des adresses, etc., ne peut pas faire fonctionner ce qu'on ferait fonctionner pour une jeune femme violentée avec deux enfants. La police, évidemment, on ne va pas à la police quand on n'a pas de papier. Accompagné par un groupe comme le nôtre, alors on peut quelquefois, hein, je veux dire, on protège d'une certaine manière, presque de notre corps, si je puis dire, des individus comme cette jeune femme, bon, qui a pu déposer plainte, qui a pu aller chez un médecin parce que son mari plus tard est venu la violer, enfin, je veux dire, c'est une histoire assez sombre, mais on ne peut pas la mettre, par exemple, dans un refuge de femmes battues. Chose qui est, je dirais, un droit humain élémentaire à la sécurité avec ses enfants. Donc, c'est un seul exemple, mais je veux dire, il y en a d'autres. De toute façon, c'est une femme, comme vient de nous dire notre amie, qui, rappelons-nous quand même, hein, je veux dire, elle dort dans une église à Bruxelles aujourd'hui. Et c'est une demandeuse d'asile, hein, qui est autour de ce micro. Et il y en a d'autres. Elle n'est pas seule. Donc même ce droit, je dirais, élémentaire à avoir un lieu où être en sécurité, un appartement, un chez-soi, ces choses-là sont finalement impossibles. Et là où je dirais le scandale arrive, si je puis dire, c'est que on garde et on garde pas, hein, toutes ces personnes. C'est-à-dire que on se voile pudiquement les yeux et voilà, je veux dire, vous avez parlé, je pense, du logement, de tout ce qui était la formation, ce qui était l'accès à l'emploi. Toutes ces choses-là rentrent dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'il y a des débrouilles sans arrêt et des techniques de survie que d'ailleurs nous aidons nous-mêmes dans notre collectif à faire parce qu'on doit bien remplacer en tant que citoyen un État défaillant.
Merci Françoise. Est-ce que Hélène, tu as quelque chose à ajouter?
Mais donc être sans papier, sans papier, c'est pas avoir de droit du tout, sauf à l'aide médicale urgente et à l'école pour les enfants. Et alors, c'est des choses qui sont très très difficiles à expliquer. C'est l'insécurité à tout bout de champ, c'est de devoir se justifier à tout bout de champ, c'est la trouille permanente, mais il n'y a plus aucun endroit où on est réellement en sécurité, ni chez son employeur, ni dans sur le chemin d'école, ni à l'hôpital, c'est de devoir tout le temps se justifier, je n'ai pas de papier, j'ai le droit à être soignée, attendez madame, on va chercher quelqu'un, ah oui, bon d'accord, vous pouvez être soignée, mais c'est tout le temps, c'est usant, fatigant, crevant, tout le temps se justifier d'être là et un courage énorme, parce qu'il faut un courage énorme pour arriver encore à revendiquer et batailler pour essayer d'avoir le minimum pour soi, pour les enfants. C'est quelque chose qui a pas beaucoup de mots pour dire, et c'est à ça qu'on travaille à Vie Féminine, c'est d'essayer de mettre les mots là-dessus pour que enfin la population de manière générale comprenne l'urgence, la nécessité de faire quelque chose de régulariser.
Alors, je viens d'entendre là qu'il y a une peur, l'incertitude que les sans-papiers vivent. Mais là, je vais vous citer un exemple qui est tiré de la dernière heure du 15 septembre 2005 dans cas d'un sans-papier. Alors, il s'appelle Basile Cassin, travaillait au noir sur un chantier à Anderlecht. Un câble de monte-charge a cédé et lui a fait faire une chute de 4 étages. Son patron a chargé l'ouvrier, grièvement blessé, et l'a transporté en camionnette du côté d'Alost et l'a jeté en rue. On l'a recueilli comme mort. Basile a survécu. Ses médecins pensent qu'il restera paralysé à vie. Alors, suite à, quand vous entendez ça, que dites-vous de cette situation? Y en a-t-il du genre? Comment ça se passe aussi? Quelles sont les spécificités que, chez les femmes? Françoise.
Ben écoutez, je vais citer la première chose qui a fait que notre collectif est né. Hein. Il est né d'une colère de femmes, de féministes à Bruxelles, quand elles ont entendu que une jeune femme avait été assassinée, étouffée par la police. Elle s'appelait Semira Damou, vous vous en souvenez probablement. Et peut-être que la colère est venue aussi en plus parce qu'on a commencé à tacher le caractère de cette femme et qu'on n'a pas reconnu, enfin on a entendu ici et là que oh, oui, de toute façon c'est une prostituée, enfin des choses horribles, alors que c'était une jeune femme qui s'enfuyait parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, était prise dans un mariage forcé. Donc, je pense que je donne cet exemple-là parce que, et à la suite de ce que vous venez de dire sur la fragilité sur le marché de l'emploi et de tous les accidents, parce que je pense que la première chose qu'on doit dire, c'est que l'État ne protège pas les personnes qui sont sans papier. Et non seulement on ne les protège pas, mais on sait que dans les centres fermés, dans d'autres endroits, des femmes sont abusées, que leurs droits ne sont pas respectés.
Justement, ce n'est pas pour vous interrompre. Vous dites que l'État ne protège pas ces personnes-là. Mm-hmm. Alors, quelles sont les occupations des femmes des sans-papiers et qu'est-ce que ça rapporte justement à l'État, bon. Alors que vous me dites que l'État ne les protège pas.
Mais cet exemple qui est quotidien, hein, qu'on voit chez les femmes que nous recevons, c'est que les premiers boulots qu'elles trouvent, des petits boulots, c'est du ménage, c'est de l'assistance aux personnes âgées, quelquefois d'ailleurs dans des homes, hein, tout à fait officiels, etc. Et quelquefois aussi des femmes qui sont qualifiées, hein, qui ont leur qualification d'infirmière quand elles étaient dans leur pays d'origine, des choses comme ça. Eh bien, il nous arrive de voir que une femme va travailler déjà pour 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, quelquefois de l'heure, qui c'est dramatique, qui à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois n'est pas payée. Et il n'y a aucun moyen d'exiger son paiement. Donc c'est la première chose finalement qui est l'exploitation avec de ces petits boulots et aussi parce qu'il y a le non-paiement, tout simplement.
Mmh. Êtes-vous d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, Fatoumata?
Non, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle avait dit. C'est vrai, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe ici. Les sans-papiers n'ont pas protégé. Quand tu vas chercher du travail, s'ils savent que tu es sans-papiers, ils te disent carrément, oh, mais si je te prends, tu vas faire comme ça. C'est cette somme-là que tu dois payer. Tu ne dois pas faire plainte parce que tu es à risque. C'est quelque chose comme ça. On vit dans le peur.
Avant d'entamer le thème image des sans-papiers, nous allons maintenant écouter Wari de Let's Go de Kotiba. Le monde. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM. L'émission, elles en parlent encore, de vie féminine Bruxelles préparée pour les femmes et par les femmes. Revenant sur le sujet des sans-papiers, nous allons entamer la question de l'image qu'on donne aux sans-papiers. Dans les pays industrialisés, les sans-papiers sont considérés les sans-numéros, les non-personnes, les riens, les fantômes de la démocratie. Françoise, alors, quand vous entendez cela, quelle serait votre réaction?
Évidemment, la première réaction, c'est que de dire que la citoyenneté d'un État moderne étant extrêmement liée à une administration complexe, à des papiers et tous les droits, c'est-à-dire les droits sociaux que nous avons en particulier, celui de la santé, celui des retraites, celui du travail, etc., qui sont des droits qui ont été gagnés depuis longtemps. Évidemment, ne plus avoir de papier, ça veut dire qu'on perd toute cette identité, c'est-à-dire on perd la place qu'on peut avoir dans une société. C'est, on ne fait plus partie finalement de l'agora. Non seulement on n'a pas de droit de vote, mais on n'a pas non plus le droit quelque part d'exister en tant que personne. Donc je retiendrai dans la liste que tu as donnée certainement le mot de non-personne, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même fort, et l'idée du fantôme aussi. Je crois qu'il y a, nous rencontrons, nous, dans notre collectif, puisque on est, je veux dire, on demande aux femmes qu'on va aider de venir hein, dans notre groupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas une assistante sociale face à face, etc. Ce sont des femmes qui viennent. La première fois où on les rencontre toujours en collectif, c'est-à-dire 6-7 femmes, et on discute pendant quelques heures. Et je crois que ce mot de fantôme, c'est quelque chose qui est important. Nous rencontrons des femmes qui sont épuisées psychologiquement. Alors, elles sont arrivées évidemment épuisées. Fatouma nous a parlé des femmes qui recherchent l'asile, des femmes qui ont été traumatisées par des violences. Et disons, on en a rajouté à chaque fois. Elles sont arrivées, on leur a demandé de raconter une histoire. Ces histoires, notamment quand c'est des histoires de viol, sont très mal prises en considération au moment de l'accueil, et je mets entre guillemets. Ces femmes, d'ailleurs, souvent ne racontent pas ces violences sexuelles, puisque eh bien, je ne veux pas dire que c'est seulement la culture africaine. Je veux dire, je serais dans cette situation, j'aurais du mal à raconter aussi le viol. Donc, on arrive à voir des femmes qui sont fantomatiques, c'est-à-dire qui sont dans une espèce de survie, l'extrême étant les violences sexuelles, mais aussi tout simplement parce qu'elles ne comprennent plus ce qui se passe. Les procédures et les lieux dans lesquels on met des personnes qui arrivent sur notre territoire sont aberrantes, mal expliquées, où il y a peu de traduction, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est en tout cas un traitement qui est à la fois inhumain et qui n'est pas digne d'un pays démocratique. Et c'est là où on se bat toujours hein, sur cette question.
Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie d'ajouter à...
Oui, moi je voulais juste ajouter ce qu'elle avait dit là, c'est vrai. Vous savez, quand une femme africaine vient ici, tu vas demander asile, on te demande de raconter tous tes problèmes. Mais ici, c'est pas comme chez nous, s'il y a beaucoup de différences. Chez nous, tu ne peux pas raconter tous tes problèmes, tu es timide, tu n'as pas envie de parler, tu as peur. S'ils pouvaient laisser les hommes quand même 6 mois, pour qu'ils sachent, ils sont à liberté de dire tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils connaissent. Là, peut-être, ils vont avoir la moralité, la force de dire ce qu'ils subissent. Mais ici, tu n'as pas 7 ans. Quand tu viens seulement une semaine, il faut que tu ailles à l'office, tu expliques comment tu es venu, quand, pourquoi, etc., etc. Alors que tu racontes, des fois tu as peur, tu fais le cœur, tu dis des choses qui ne te rappellent même pas, ou bien tu te rappelles les autres. Après, on te laisse quelques temps, on te reconvoque pour dire tout ça. Nous, on n'a pas, là où on était, on n'a pas tout écrit. Tu vas oublier que les jours ou bien les mois, Pour eux, ils ont tout écrit. Parce que, eux aussi, que tu demandes s'ils n'ont pas écrit, ils vont oublier. Mais pour eux, ils n'oublient pas parce que c'est écrit, c'est devant eux. Pour toi, on te demande de raconter tout. Tu oublies les dates. On te dit, tu as menti. Même si tu oublies une seule date, on te considère que tu as menti. Alors que toi, tu sais, à ta profonde cœur, tu n'as pas menti, tu as tout dit la vérité.
Oui, justement. Mais ici, quand on dit que ce sont des fantômes de la démocratie ou bien des non-personnes, donc ce sont des non-personnes, c'est quoi? Ce sont des inhumains, des personnes qui n'ont... Enfin, là, on parle de l'humain. Pour vous, par exemple, Fatoumata, est-ce que vous y retrouvez? C'est quoi l'image quand vous passez ou bien quand vous êtes là sans avoir un document par rapport aux autres personnes dans la société? Quelle est l'image que vous sentez qu'on vous donne?
Avant, je sentais isolée. Et les gens me rejetaient parce que quand je suis venue ici, d'abord, pour chercher les maisons, c'était tout à fait un problème d'abord pour chercher les maisons. Quand tu trouves à louer, tu sonnes, on te dit c'est qui. Quand tu parles seulement, on dit non, c'est loué, même si ce n'est pas loué. Ça aussi trouve un autre problème. Mais moi, c'est depuis que je suis partie à l'église Saint-Suzanne, je suis rencontrée avec les gens de l'église, avec des voisins. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie un peu ouverte. Maintenant, je rencontre avec les gens que je connais. On se salue, on s'embrasse. Avant, moi, je ne croyais qu'ici, ça n'existe pas. Parce que quand je rencontre avec les gens, ils se mettent à côté. Moi, je passe à côté. Je dis, oh là là, quelle terrible, quelle erreur. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Mais il faut que les gens sachent, pour venir ici, ce n'est pas parce que les gens aient envie de venir. C'est parce qu'ils ont des problèmes. Si tu n'as pas de problème, c'est toi. Vraiment, être, c'est toi, c'est bien, même si tu n'as rien. Même si tu es pauvre, si tu es chez toi, tu n'as pas de problème avec les parents ou bien avec le gouvernement, tu te sens bien. Mais quand tu viens dans un pays que tout le monde, quand il te voit, il te met à côté, tu parles. Mais avant, si je n'étais pas été à l'église Saint-Suzanne, je dirais que tous les Belges sont méchants. Mais quand même, maintenant, j'ai vu des Belges qui sont gentils.
Merci,
qui
Fatoumata.
J'aimerais vivre avec nous.
Merci, Fatoumata. Justement, je vais donner la parole à Hélène. Dans certains pays, certains pays déclarent qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Mais pour certains responsables politiques, les étrangers, y compris les sans-papiers, représentent la richesse du monde. Que signifie justement ce double langage?
Mais je pense qu'ils ne parlent pas de la même chose. Je pense que quand on dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on parle de la misère économique. Et que quand on parle de la richesse des personnes, on parle de la richesse de l'expérience, du savoir, du partage des cultures. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, moi, par rapport à « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », c'est quelque chose qui me fait vraiment enrager, parce que la misère du monde, c'est nous d'abord qui l'avons créée, en grande partie. Je veux dire, quand on pouvait aller servir dans un pays à l'étranger, on l'a fait. On l'a fait par rapport aux matières premières, on l'a fait par rapport aux humains. Enfin, je veux dire, l'esclavagisme, c'est pas si vieux finalement, hein. Tout le sous-sol du Congo, on l'a largement pillé.
Et tout à fait. Et ça crée aussi les misères à l'autre côté.
Et voilà. Oui. Et donc, moi, je pense qu'un pays qui reste replié sur lui-même, c'est un pays qui finit par mourir. Enfin, je veux dire, une culture qui serait repliée sur elle-même, ça devient extrêmement pauvre. Donc, moi, pour moi, je suis vers l'ouverture.
Françoise a envie de rebondir.
Moi, je voudrais préciser quelque chose parce que je suis française, moi. Or, cette phrase a été prononcée par un politicien français de socialiste, Michel Rocard, pour ne pas le nommer, mais qui a dit quelque chose, on oublie toujours. C'est-à-dire qu'il a bien dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle devait prendre en charge sa part. Donc, je crois qu'il faut toujours, quand on dit cette phrase-là, se souvenir de la deuxième partie, parce que je pense qu'elle donne sens, justement, à ce que c'est que la solidarité.
Merci, Françoise. Maintenant, Que pensent les assemblées des quartiers, les représentants des églises, les commerçants? Quelles sont les visions des médias? Que font les syndicats? Françoise?
Alors, voyons. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est important, puisque maintenant on est dans la durée. Hein. La question des sans-papiers, comme on dit, ne date pas d'hier. C'est un phénomène qui maintenant est de quoi, 15 ans, 20 ans, hein, des choses comme ça. Donc je pense que ce qui a été important pour moi, il y a deux choses. Il y a d'une part les collectifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des organisations un petit peu marginales qui ont secoué le cocotier, et notamment le cocotier des organisations un petit peu plus traditionnelles comme les syndicats. Et on dit, oui, c'est bien joli de dire, etc., etc., mais bon, les gens qui sont des clandestins travaillent et les syndicats sont là pour protéger les travailleurs, par exemple, un exemple. Hein. Donc il y a des pressions qui ont été faites par des gens, souvent des jeunes d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'important. Le deuxième étape, et je crois que c'était la première assemblée des voisins, je crois que c'était à Ixelles, ça a été une espèce de solidarité, je dirais presque spontanée, de voisins, c'est pour ça que ça s'est appelé les assemblées de voisins, qui ont tout simplement apporté à la fois cette chaleur dont parlait Fatoumata, et aussi faire la soupe, amener à manger, amener des matelas et des choses comme ça. Ce qui est quand même le réconfort du foyer, enfin, je veux dire, qui est une solidarité directe. Et je pense que ces gens ont su vraiment parler de ce que c'était finalement qu'un sans-papier, une sans-papier, etc. Et alors, la troisième chose, je pense que c'est l'auto-organisation, c'est-à-dire la naissance d'organisations. On va citer évidemment l'UDEP, mais qui sont la prise en charge et la prise de parole par des sans-papiers en eux-mêmes. Alors, bon, je trouve que l'église Sainte-Suzanne est peut-être, pour moi qui suis dans un collectif de femmes, l'aboutissement, parce que je dois dire que l'UDEP n'était peut-être pas très sensible au début de sa militance des questions de femmes, et on le comprend, c'est un petit peu la tradition dans les organisations. Mais je pense que ces trois étapes-là sont importantes, et elles sont importantes pour changer justement l'image et l'image des personnes. Et je pense que le monde politique ne peut plus parler de la même façon et ne peut plus ignorer.
On va en revenir maintenant. On va prendre une pause musicale de Movin de Marla Glenn.
It's time for moving, grooving, moving with the music. As the days go by, I'm feeling my emotion. The feeling's right with love and devotion. When I'm feeling down, something is taking over. The feeling's right. No one could.
Toujours sur Radio Panique 105.4 FM, elles en parlent encore, émission de vie féminine, Bruxelles. Après avoir débattu tous les problèmes sur les sans-papiers, quels sont les enjeux politiques actuels et quelles sont les revendications et les positions des associations comme Collectif des femmes sans-papiers en noir, l'UDEP et vie féminine? Alors, Françoise ou Hélène?
Mais écoutez, rapidement, hein, parce que je pense qu'on est à peu près d'accord, ouais. En tout cas avec Féminine, on soutient évidemment les revendications. Ce sont des revendications de droits économiques, de droits au travail, de régularisation, de droits à l'éducation. L'action que nous menons, évidemment, elle est minuscule. Hein, je veux dire, on ne va pas se comparer à Vie Féminine, c'est-à-dire que nous rencontrons des femmes et nous les soutenons individuellement, mais nous tirons de cette rencontre des revendications, des choses comme on avait fait un colloque avec une publication que vous pouvez obtenir et qui s'appelait Vivre clandestine. On a essayé d'analyser aussi quelle était cette situation, d'inviter les universitaires, etc., et de traiter la question du genre et d'y sensibiliser le monde politique. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de trouver les avocats, de trouver des avocats qui sont capables de résoudre des problèmes qu'on a entendus qui étaient très
complexes, et notamment toutes ces histoires qui sont racontées une fois, deux fois, et qu'il faut recommencer sans arrêt les papiers. Mais je pense que je vais te donner peut-être la parole directement, Nicole, parce que parce que vous êtes bien structurée tout de même dans vos demandes.
Mais donc nous, on soutient effectivement donc qui est un bureau de régularisation, qu'on puisse savoir qu'il y a des critères pour pouvoir être régularisé. Donc on reprend plus ou moins les critères de l'UDEP, mais nous on veut surtout attirer l'attention sur la réalité de vie des femmes. Donc il y a le critère de longue procédure, il y a le critère de maladie. Dans les maladies, on voudrait que les maladies de femmes soient prises en compte, que aussi les suites des violences subies par les femmes, je veux dire, il n'y a pas que les maladies physiques, il y a aussi les maladies psychologiques. Il faut que ce soigner soit accessible, et y compris accessible pour des femmes qui ne vont peut-être pas faire passer leur santé en premier lieu, mais la santé de tout le reste de la famille. L'impossibilité de retour, nous aussi, on demande que la réalité des femmes soit prise en compte, parce qu'on peut déclarer un pays sûr, mais qui ne soit pas du tout sûr pour une femme qui a pris l'habitude de vivre à la Belge. Je veux dire,
L'Iran, par exemple.
L'Iran et plein d'autres pays. Quand on a appris à avoir des droits et à s'exprimer et à revendiquer, il est très difficile d'arriver dans une culture patriarcale où tout d'un coup il va falloir se taire. Enfin. Et puis les conséquences, comme toi tu le disais, Fatoumata, quand dans certaines cultures on ose refuser quelque chose, elles sont dramatiques. Donc, alors par rapport aux attaches durables aussi, qui est le quatrième critère, nous on demande qu'on tienne compte de toute la façon de se sociabiliser des femmes, qui n'est pas toujours de se mettre en avant, mais d'aller par exemple conduire les enfants à l'école, qui est d'aller dans les cours d'alphabétisation parfois des écoles ou bien des associations, qui est d'aller dans les consultations ONE. Il y a plein de choses que les femmes font et qui montrent qu'elles sont intégrées, qu'elles savent comment faire en Belgique, mais qui ne sont pas les choses les plus visibles. Et donc on voudrait qu'on tienne compte de ça aussi. Et puis nous avons un cinquième critère. On sait très bien que il est parfois extrêmement dur de faire entendre la réalité des femmes. Ça va légèrement mieux, mais ça reste difficile. Et il y a des femmes qui n'ont pas eu des papiers, par exemple. Zemira Adamou n'a pas eu des papiers il y a 8-9 ans d'ici. Elle les aurait maintenant. Il y a d'autres femmes qui traînent comme ça, qui ont été refusées parce que les procédures n'étaient pas du tout adaptées à la réalité des femmes et qui auraient pu avoir des papiers. Alors on demande que ces femmes-là soient régularisées tout de suite, qu'on ne leur fasse pas recommencer des procédures, voilà. Et puis ça, c'est par rapport à la régularisation, mais aussi on a aussi une position par rapport à la demande d'asile. Donc on en a parlé, on voudrait que la demande d'asile soit individuelle et qu'effectivement on entende autant monsieur et madame et que tous les deux reçoivent en tant que personne des papiers. Parce qu'effectivement, c'est tellement dur de vivre l'asile, c'est tellement dur d'arriver dans un pays étranger, c'est tellement dur la misère qu'il y a plein de couples qui explosent et qu'il faut que ces personnes-là aient au moins la sécurité administrative. Et puis aussi au niveau de l'asile, on voudrait qu'il y ait un bureau du genre, donc des personnes qui de référence, qui puissent vraiment former, informer les travailleurs du CGRA et différents bureaux, pour que ces personnes puissent entendre la réalité des femmes.
Et au niveau des partis politiques, est-ce que ça bouge? Quels sont les enjeux actuels? Qu'est-ce qu'il y a comme politique actuelle?
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une période d'insécurité totale, puisque donc il y a un formateur qui a été désigné, qu'il est du MR, que le MR est le seul parti qui est complètement opposé à la régularisation, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça continue comme ça, sans critères, au cas par cas. Qu'on pense bien qu'ils vont se mettre en accord avec le CDH, qui eux sont pour la régularisation, mais dans tout le jeu politique et toutes les négociations, on a très peur que le CDH n'en fasse pas la priorité absolue, qu'il soit plus attiré de quand même faire passer d'autres d'autres revendications qui sont les leurs. Et du côté flamand, le CTNV est plus ou moins pour, mais une régularisation one shot qui ne réglerait pas les choses à durée indéterminée, qui réglerait les choses maintenant. Et le VLD, évidemment, c'est le parti de M. De Waal, veut rester sur ses bases.
Mm-hmm. Et, une chose qui n'est jamais mentionnée, évidemment, c'est la fermeture des centres fermés, si je puis dire, hein, qui est une revendication pour tout le monde.
Merci. Fatoumata, est-ce que quel est le message que vous souhaiterez transmettre à nos élus?
Je vais juste le dire qu'ils arrêtent d'amener les gens au centre fermé. Imaginez-toi quand tu viens dans un pays qui était enfermé, tu fuis là-bas, tu viens ici, tu dis maintenant c'est libre, tu te retrouves en prison aussi. C'est parce que c'est comme ça que les gens vivent ici. Quand tu sors de la prison, tu fuis chez toi, tu viens ici, on t'amène aussi au centre fermé. Là aussi, tu es dans la prison. Quelle vie!
Merci. Françoise, vous aimeriez aussi ajouter quelque chose? Quel message aimeriez-vous transmettre?
Mais je crois que Fatoumata nous l'a donné. Elle nous a dit qu'on n'enfermait pas ni les enfants, ni les femmes, ni les hommes dans ces centres fermés. Quand nous avons commencé le collectif il y a 7-8 ans, nous pouvions aller visiter les gens dans les centres fermés. Nous sommes maintenant persona non grata. Et Dieu sait si il se passe des choses et qu'on aimerait bien aller voir ce qui se passe dans ces centres fermés.
Hélène?
Eh bien, il y a entre 100 000 et 150 000 personnes sans papier, et donc c'est une urgence sociale. Je veux dire, même les personnes qui ne sont pas favorables à la régularisation, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils le traitent, et c'est urgent. Parce qu'il y a des quartiers où il y a 10 à 20% de personnes sans papier, et c'est dramatique.
Merci beaucoup pour cette émission. Merci à toutes. Si le thème vous a intéressé et que vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Vie Féminine Bruxelles au 02 513 60 00. Avant de clôturer...
513 69 00.
Merci Hélène. Avant de clôturer cette émission, je souhaite remercier vivement toutes nos invités, nos intervenantes. Nous remercions également à Magali et Dominique qui n'est pas là aujourd'hui, qui ont participé à la préparation. Annabelle pour le support technique et vous, chères auditrices, auditeurs, merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour le 22 septembre pour notre prochaine émission sur le thème « Les violences faites aux femmes » sur Radio Panique 105.4. L'émission « Elles en parlent encore » de Vie Féminine Bruxelles, préparée pour les femmes et par les femmes. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et bonnes vacances d'été.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.